Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'écoute de Radio Vatican. Les activités du pape au cours de la journée de lundi 21 septembre, mais aussi les nouvelles de l'église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire, au Bénin, en République démocratique du Congo, constitueront notamment les points saillants de l'actualité de l'église de cette édition de notre programme. Dans le cadre de l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons au Nigeria, au Ghana, en Mauritanie, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le pape a reçu tour à tour lundi en audience privée M. Rick Dims, président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mgr Bruno Muzaro, nonce apostolique au Costa Rica, M. Dejan Savović, ambassadeur de Serbie. En fin de mandat, toujours lundi, dans la matinée, les enfants autistes de la clinique ambulatoire Zones Chen en Autriche ont été également les hôtes du pape. Dans son adresse, le pape leur a rappelé que leur clinique signifiait la splendeur du soleil et non choisi, sans doute par ressemblance à une magnifique plairie de fleurs au soleil. Et le pape de continuer, les fleurs de cette maison, c'est vous. Dieu a créé le monde avec une grande variété de fleurs de toutes les couleurs. Chaque fleur a sa propre beauté et qui est unique. Chacun de nous, a poursuivi François, est également beau aux yeux de Dieu et il nous aime. Cela nous fait ressentir le besoin de dire à Dieu merci. Merci pour le don de la vie pour toutes les créatures. Merci pour maman et papa. Merci pour nos familles et merci aussi pour nos amis. Ce merci à Dieu est une belle prière, a fait remarquer le Saint-Père, invitant les enfants de la clinique ambulatoire Zones Chen d'ajouter à cette prière une petite question à Dieu. Bon Dieu, pourrais-tu aider maman et papa dans leur travail? Pourriez-vous réconforter notre grand-mère qui est malade? Pourriez-vous subvenir aux besoins des enfants du monde entier qui n'ont pas de nourriture? Ou encore, Jésus, aidez le pape à bien diriger l'Église. Si vous demandez dans la foi, a conclu l'évêque de Rome, le Seigneur vous écoutera sûrement. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé nonce apostolique en Angola et à São Tomé et Principe, Mgr Giovanni Gaspari, l'élevant en même temps titulaire du siège du diocèse de Alba Maritima avec la dignité d'archevêque. Mgr Gaspari est né à Pescara en Italie le 6 juin 1963. Il a été ordonné prêtre le 4 juillet 1987, incardiné dans le diocèse de Pescarpène. Il est détenteur du doctorat en droit canonique et d'une licence en théologie morale. Il parle l'anglais, l'espagnol et le français. Il était jusqu'à sa nomination conseiller de nonciature près la section pour les rapports avec les États de la Secrétaire d'État. L'exhortation apostolique post-synodale du pape François Christus Vivit est désormais disponible en amharique, la langue parlée en Éthiopie. La nouvelle traduction confiée à une équipe dirigée par le père capucin Daniel Assefa a été lancée le 11 septembre dernier, correspondant au nouvel an éthiopien. C'est le Bureau national de la jeunesse de la conférence épiscopale éthiopienne, créé il y a tout juste 7 mois, qui a coordonné le travail de traduction d'un pression et de distribution du volume, informe l'Association des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est. Était présent à la présentation de ce volume de 126 pages, avec en couverture une carte symbolisant l'espoir, le cardinal Béraïesus Sourafiel, archevêque métropolitain d'Addis Abeba, le père Tesom Fikri, secrétaire général de la conférence épiscopale éthiopienne, ainsi que tous ses collaborateurs et des représentants de la jeunesse. Dans son discours, le cardinal Sourafiel a indiqué que Christus Vivit était l'un des documents les plus attendus par l'Office national de la jeunesse. Le pape François nous a exhortés à vivre le Christ comme notre vie de jeûne. Nous devons tous vivre comme le Christ nous enseigne, a-t-il dit, rappelant dans les paroles de François que les jeûnes sont le présent de Dieu. Le cardinal a ensuite donné une bénédiction spéciale au nouveau bureau en adressant des mots d'encouragement aux bénévoles qui ont contribué à son travail durant ces mois dans divers domaines. Direction République démocratique du Congo pour parler des ordinations sacerdotales et diaconales dans le diocèse de Luisa. La cathédrale Saint-Vincent de Luisa, qui a accueilli cette célébration, a vibré le dimanche 20 septembre dernier au son et au cri strident des mamans catholiques, expression d'une joie immense à l'occasion de l'ordination de 4 séminaristes, ainsi que de l'ordination presbytérale de 4 diacres. Dans son homélie, Mgr Félicien Mwanamanga Lumbula, évêque de Luisa, a rappelé aux ordinants le sens de la gratitude qui doit accompagner l'exercice de leur ministère dans l'Église. Toute vocation authentique trouve sa justification dans l'amour de Dieu qui fait de tout appeler en alter Christus, a souligné Mgr Mwanama, exhortant les ordinants à approfondir leur amitié avec le Christ pour tirer les énergies nécessaires pour leur apostolat. Ces ordinations auraient eu lieu en mars dernier. Elles avaient été reportées à cause du confinement et des mesures barrières contre la propagation du nouveau coronavirus. Toujours à propos du diocèse de Luisa, ce diocèse a ouvert récemment l'année pastorale 2020-2021. Plus de 90 prêtres ont participé à la retraite animée par M. l'abbé Blaise Kanda, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi. Cette retraite a eu lieu au séminaire propédeutique Saint-Léon-le-Grand. Pendant 4 jours, les prêtres ont pu prier, méditer la parole de Dieu et célébrer l'Eucharistie ensemble. Grâce à un va-et-vient entre leur vie sacerdotale et leur charge pastorale, ils ont approfondi le sens de leur consécration et sa portée pastorale dans les circonstances actuelles. Les animateurs du Bureau diocésain de pastoral, du Bureau diocésain des œuvres pontificales missionnaires et les coordinations des écoles conventionnées catholiques sont intervenus, chacun selon son secteur, pour indiquer les activités à promouvoir durant la nouvelle année pastorale. L'animation des agents laïcs en ministère pastoral a offert un vademécum des agents laïcs où leur profil est décrit en vue de faciliter leur éligibilité et leur formation. Retrouvons maintenant notre correspondant au Bénin pour parler de la restitution des résultats des activités de Caritas Bénin pour la riposte contre le coronavirus.
Fille du Padre Pio, debout, marche vers ton Dieu dans la gratitude et l'espérance. Tel un mot d'ordre, c'est ce thème qui a constitué le cœur des travaux du deuxième chapitre général des sœurs franciscaines filles du Padre Pio 14 jours durant et qui a été soldé en l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Cotonou au Bénin par une messe d'action de grâce présidée le lundi 14 septembre 2020 par Monseigneur l'archevêque de Cotonou Roger Rumbedi et concélébrée par l'évêque de Ndali Monseigneur Martin Adjou et quelques prêtres. Ce fut également l'occasion d'autres événements d'action de grâce dont le prélat s'en est réjoui avant de s'adresser aux heureuses du jour.
L'Église nous invite ce jour à célébrer la fête de la croix glorieuse. Et ce même jour, deux autres événements marquent la vie de notre archidiocèse. C'est la commémoration des 65 ans création de notre archidiocèse. C'est aussi la célébration de la clôture du chapitre général des sœurs franciscaines, filles de Padre Pio.
La mère générale Madeleine Couty, réélue au cours du chapitre, n'en était pas aussi moins joyeuse.
Les sentiments qui m'animent à cet instant sont des sentiments de joie et de crainte de Dieu.
Puis le père spirituel de l'Institut, père Pamphile Fanon, nous revenait sur quelques actes du chapitre.
Les pièces, les documents, les actes qui ont été réalisés au cours de ce chapitre, c'est des choses maintenant qui serviront de jurisprudence pour l'Institut.
Guy Dosuyovo, Cotonou, ou Radio Vatican.
Rendons-nous en Côte d'Ivoire, où le père Hervé Louis Yodé, prêtre de la Congrégation de Jésus et Marie, a été nommé directeur général de la Radio Nationale Catholique. Reportage.
16 candidats en lice, le père Hervé Louis Yodé a retenu l'avis favorable du jury, selon le père Emmanuel Wainien, du fait de sa parfaite connaissance de l'Église et la perception qu'il a des défis auxquels la RNC doit faire face. Les défis et la portée de cette charge à lui confier par l'Église, le père Hervé Louis Yodé en est bien conscient. Je mesure la portée de la charge de la responsabilité, les défis et les attentes sont très nombreux, mais c'est ensemble avec le soutien de tous et des partenaires, surtout avec la grâce de Dieu, que nous essayerons de relever ces défis. défis, affirme-t-il. À l'endroit des auditeurs et des agents, le père Yodé a tenu à les rassurer. C'est un frère qui vient travailler avec eux et pour eux. Et c'est ensemble que nous pourrons faire quelque chose pour que non seulement ces défis soient relevés, mais aussi pour que tous les agents soient heureux de travailler à la RNC et de porter ensemble la voix des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a-t-il fait remarquer. Mais avant, le nouveau directeur général de la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire s'est voulu reconnaissant à Dieu pour sa présence dans sa vie et les diverses manifestations des signes de son amour. Reconnaissance qu'il a également manifestée à l'endroit des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour cette marque de confiance. Notons enfin que le père Hervé Luyodé, quatrième directeur général de la RNC depuis sa création le 2 février 2001, remplace à ce poste le père Émile Vanga après 6 années de bons et loyaux services passés à la tête de cette institution. Il est appelé à d'autres fonctions dans son diocèse de Grand Bassam. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les professionnels de santé nigérians ont cessé lundi leur mouvement de grève lancé il y a une semaine pour réclamer de meilleurs salaires, des infrastructures plus adaptées et des primes pour leur travail durant la pandémie de COVID-19. Tous les salariés du secteur de la santé des 5 syndicats qui composent le syndicat uni des travailleurs de la santé et l'assemblée des associations professionnelles de santé doivent retourner au travail, ont déclaré conjointement des responsables syndicaux. Les leaders syndicaux ont également annoncé qu'ils se réuniraient plus tard pour décider du prochain plan d'action tout en exhortant le gouvernement à répondre aux demandes des travailleurs. Concernant toujours la COVID-19 au Nigeria, l'État des Lagos poursuit le déconfinement avec la reprise de l'école lundi, même si des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 subsistent, ont annoncé les autorités. Dans un autre registre, le gouverneur Godwin Obaseki, un transfuge du parti au pouvoir au Nigeria, passé dans l'opposition, a été réélu dimanche dans l'État d'Edo à l'issue du premier scrutin organisé dans le pays depuis le début de la pandémie de coronavirus. 10 civils et un soldat ont été tués dimanche soir dans une zone surnommée le Triangle de la Mort dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées, a indiqué lundi un responsable local. En Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié lance un appel à la désobéissance civile face à la candidature controversée à un troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre, qu'il a qualifié de forfaiture et de violation de la Constitution. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile, a déclaré M. Bédié, salué par un tonnerre d'applaudissements à la fin d'un grand rassemblement qui a réuni à Abidjan les principaux partis de l'opposition au siège de son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est félicité dimanche des avancées enregistrées par son pays dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester disciplinés et respecter les mesures d'hygiène, le port du masque et la distanciation sociale qui font désormais partie de notre quotidien, a fortement rappelé le président Akufo-Addo. Le chef de l'État a souligné la baisse importante du nombre de contaminations au COVID-19 au Ghana, où le port du masque demeure obligatoire jusqu'au 14 décembre. M. Akufo-Addo a notamment signifié qu'après des consultations avec la Fédération de football ghanéenne, il a été décidé que les championnats reprennent dans le pays à compter du 30 octobre.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Les habitants de plusieurs quartiers de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, se sont retrouvés les pieds dans l'eau dimanche après des précipitations d'une rare abondance au cours d'une saison particulièrement pluvieuse. Rouler était impossible dans certains quartiers dont le niveau se trouve à 1 mètre sous celui de la mer, bien que des pompes aient été activées au cours de la nuit pour vider les rues, mais aussi les écoles où se déroulent en ce moment les examens du baccalauréat. L'Algérie veut reporter l'achèvement de la mise en place d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne qui devait entrer en vigueur le 1er septembre, a confirmé le président algérien Abdelmajid Tebboune. Nous allons revoir le calendrier du démantèlement tarifaire et l'Union européenne est d'accord concernant cette révision à laquelle s'attellent des économistes, a affirmé dimanche soir M. Tebboune lors d'une rencontre avec des représentants de la presse algérienne. C'est au cours de cette rencontre que le président algérien Abdelmajid Tebboune a accusé Reporters sans frontières qui a lancé une campagne internationale de solidarité en faveur de Khaled Drarouni, son correspondant emprisonné, de vouloir déstabiliser l'Algérie. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, M. Drarouni, 40 ans, a été condamné le 15 septembre en appel à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Ce verdict a soulevé l'indignation et de vives protestations en Algérie et au-delà.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Poursuivons notre programme et c'est avec Armela Mohimoundou qui nous présente le magazine consacré à la santé.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé se focalise aujourd'hui sur la sécurité des agents de santé. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, appelle les gouvernements et les responsables des soins à faire face aux menaces persistantes qui pèsent sur la santé et la sécurité des agents et des patients. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé le rôle vital que jouent les agents de santé pour soulager les souffrances et sauver des vies, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aucun pays, aucun hôpital ou aucun dispensaire ne peut assurer la sécurité de ses patients sans garantir celle de ses agents de santé. La charte de l'OMS pour la sécurité des agents de santé marque une étape pour veiller à ce que ceux-ci bénéficient des conditions de travail sûres, de la formation, de la rémunération et du respect qu'ils méritent, a-t-il déclaré. La pandémie a également montré à quel point la protection des agents est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du système de santé et de la société. La COVID-19 a exposé les agents de santé et leurs familles à des niveaux de risque jamais vus auparavant. Bien qu'elles ne soient pas représentatives, les informations émanant de nombreux pays de l'ensemble des régions de l'OMS laissent entendre que les infections par le virus responsable de la COVID-19 sont beaucoup plus importantes chez les agents de santé que dans la population générale. Ainsi, alors que les agents de santé représentent moins de 3% de la population dans la grande majorité des pays et moins de 2% dans presque tous les pays à revenus faibles ou intermédiaires, ils constitueraient environ 14% des cas de COVID-19 signalés à l'OMS. Dans certains pays, cette proportion peut aller jusqu'à 35%. Toutefois, la disponibilité et la qualité des données sont limitées, de sorte qu'il est impossible de déterminer si les agents de santé ont été infectés sur leur lieu de travail ou dans la communauté. À l'échelle mondiale, des milliers d'agents de santé infectés par la COVID-19 ont perdu la vie. En plus des risques physiques, la pandémie soumet les agents de santé à un formidable stress psychologique, tandis qu'ils passent de longues heures dans des environnements très exigeants et vivent dans la peur constante de l'exposition à la maladie, tandis qu'ils sont séparés de leur famille et font face à un rejet social. Avant que la COVID-19 frappe, les professionnels de la médecine présentaient déjà un risque plus élevé de suicide dans toutes les régions du monde. Dans une étude récente sur les professionnels de la santé, il est apparu qu'un sur quatre faisait état de dépression et d'anxiété et un sur trois avait souffert d'insomnie en période de COVID-19. En outre, cette étude a mis en évidence une augmentation alarmante des signalements de harcèlement verbal, de discrimination et de violence physique à l'encontre des agents de santé dans le sillage de la pandémie de COVID-19. Ainsi, le 17 septembre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, en publiant la charte, l'OMS a rappelé au gouvernement qu'ils ont la responsabilité juridique et morale de garantir la santé, la sécurité et le bien-être des agents de santé. La charte de l'Organisation pour les agents de santé demande à tous les États membres et aux parties prenantes concernées de prendre ces 5 mesures pour mieux protéger les agents de santé. Ces mesures sont: créer des synergies entre les politiques et les stratégies en matière de sécurité des agents de santé et celles portant sur la sécurité des patients, élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de santé et de sécurité au travail pour les agents de santé, protéger les agents de santé contre la violence sur le lieu de travail, améliorer la santé mentale et le bien-être psychologique et protéger les agents de santé contre les dangers physiques et biologiques. En plus de la charte pour la sécurité des agents de santé, l'OMS a également défini des objectifs spécifiques de la Journée mondiale de la sécurité des patients 2020, visant à amener les responsables des soins de santé à investir dans la sécurité des agents, à la mesurer et à l'améliorer dans le courant de l'année qui vient. Ces objectifs sont destinés à permettre aux établissements de soins de santé d'aborder 5 domaines. Prévenir les blessures par objet tranchant, réduire le stress lié au travail et l'épuisement professionnel, améliorer l'utilisation des équipements de protection individuelle, promouvoir la tolérance zéro à l'égard de la violence contre les agents de santé et signaler et analyser les incidents graves liés à la sécurité.
Média, c'est notre rubrique du jour. Marie-Josée Mwando, Boisboilo.
Commençons notre rubrique sur les médias par la Côte d'Ivoire. Le meurtrier du journaliste Jean Hélène, le policier ivoirien Théodore Dago Seri, condamné à 17 ans de réclusion en 2003, sera remis en liberté en octobre après avoir purgé sa peine. Le tribunal militaire, après avoir reconnu Théodore Dago Seri coupable, l'a également destitué depuis 2004 du corps de la police qu'il ne pourra plus réintégrer, a affirmé le commissaire du gouvernement, procureur militaire, le contre-amiral Ange Kessy. Le meurtrier s'était évadé de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan durant la crise post-électorale de 2011 avant d'être appréhendé et reconduit à la prison d'Abidjan. C'est dans la prison de la ville de Mans que Théodore Dago Seri purge depuis 2019 le reste de sa peine dans l'attente de sa liberté prochaine, a précisé le procureur militaire. Le 21 octobre 2003 au soir, Théodore Dago Seri avait abattu Jean Hélène, correspondant de Radio France Internationale, âgé de 50 ans, d'une balle dans la tête, alors qu'il attendait à proximité du siège de la police nationale à Abidjan la libération de 11 membres du parti de Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien alors dans l'opposition. Le sergent de police ivoirien avait été condamné le 22 janvier 2004 à Abidjan à 17 ans de prison pour homicide volontaire. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi l'Azerbaïdjan pour de multiples violations des droits de l'homme commises lors de l'arrestation et de la détention provisoire en 2014 et 2015, du journaliste azerbaïdjanais Raouf Mirkadirov. Accusé d'avoir communiqué des informations secrètes à des agents arméniens, il avait été inculpé pour haute trahison, puis placé en détention provisoire. Il avait été condamné à 6 ans de prison ferme le 28 décembre 2015. Le 17 mars 2016, la Cour d'appel avait assorti sa peine d'un sursis et il fut libéré le jour même. Les magistrats ont estimé que l'arrestation et la détention du journaliste avaient été décidées en violation du droit à la liberté et à la sûreté inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, car les soupçons qui pesaient sur lui ne satisfaisaient pas à la norme minimale fixée par la Convention. Ils ont également souligné que M. Mirkadirov a pu être maintenu en détention pendant plusieurs heures sans fondement lorsqu'en novembre 2014, l'ordonnance autorisant sa détention avait expiré et n'avait pas été renouvelée à temps. L'Azerbaïdjan a également été condamné pour non-respect de la présomption d'innocence et pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. Pendant les 21 mois de sa détention, M. Mir Kadyrov avait été privé de tout contact en personne, par téléphone ou par courrier avec le monde extérieur, à l'exception de ses avocats. La liberté d'informer est un droit fondamental qui doit être protégé. La condamnation en appel de Khaled Drareni, symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, a déclenché une avalanche de protestations de ses soutiens. Son maintien en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente, a ainsi réagi Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. M. Drareni a fondé le site d'information en ligne Kasba Tribune et est le correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 Monde et pour Reporters sans frontières.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Niamien. Merci de nous être fidèles. À très bientôt pour un autre rendez-vous des informations sur Radio Vatican.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon